Bazuca.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Djiboutique. Djiboutique, c'est tous les mardis entre 6 et 7 heures et on vous emmène en musique, on vous fait voyager dans différents endroits et ce soir, on vous emmène un petit peu, on va dire, au Mexique. On a un invité, il s'appelle César, il va vous expliquer un petit peu tout ça. Voilà, bonsoir César.
Bonsoir.
Tu es bien là, donc super.
Oui, oui.
Alors, on va juste expliquer un peu aux auditeurs comment on s'est rencontrés, tout ça. Rappeler quand même que tu avais présenté ton parcours dans le cadre de la quinzaine de la solidarité internationale. C'était en octobre de l'année dernière. Et à cette occasion-là, c'était dans le local de la Confédération des Amis de la Morale Laïque. On avait parlé de Bruxelles, carrefour des diasporas.
C'est juste.
Tu vis à la limite de Bruxelles, on va dire. Hein.
Oui.
J'aime bien dire comme ça.
C'est juste voilà. En traversant les Rhin.
Voilà. Et donc, tu es musicien, tu es mexicain, tu es musicien. Ça fait un moment que tu vis en Belgique. Et ça fait un moment aussi qu'on avait parlé de t'accueillir dans ces ondes. Quedaba pendiente, comme on dit en espagnol.
Mm-hmm.
Alors, c'est une petite colle pour commencer. Tu traduirais ça comment, toi?
Et on avait en parlé.
On en avait parlé. Quedaba pendiente. C'était en attente, on va dire ça comme
oui.
ça.
Oui, c'est juste.
C'est pas toujours facile de traduire et de trouver la bonne expression. Moi, j'aime bien cette expression, quedaba pendiente.
Quedaba pendiente.
Très mexicaine, peut-être. Je ne sais pas.
Oui.
Mais donc, voilà, on va donc. Tu es musicien de musique classique, hein, tu t'es formé en Belgique.
Exactement. Donc, je suis venu en 2002 pour faire des études au Conservatoire Royal de Bruxelles. Et j'ai fait beaucoup d'années en faisant du violon. D'abord, bachelor. Je voulais tout recommencer de zéro. J'étais déjà musicien professionnel dans un orchestre au Mexique.
Et quel genre d'orchestre?
C'est le même style, musique classique.
Musique classique, ok.
Musique classique, tout à fait à la fin, c'était musique pop. Mais en tout cas, j'avais un poste à vie. Mais j'avais 22 ans, je pense.
Mais ce n'était pas le même groupe, donc entre la musique classique, musique pop, tu as fait
non,
différents
groupes. Non, c'est vrai
groupes,
que j'ai eu des influences de musique et pop au Mexique. Et depuis que j'étais très jeune, je suis arrivé à Jalapa. Et peut-être que là, on peut commencer déjà parler de mon séjour à Jalapa, parce que moi, je suis originaire de...
Pourquoi pas? Je ne connais pas très bien, donc ça m'intéresse.
Voilà, donc moi, je suis originaire d'une ville qui s'appelle Puebla. C'est près de la ville de Mexico. Je pense que c'est 100 km, mais bon, il y a une montagne entre les deux. Et ça fait du coup 2 heures et demie, peut-être 3 s'il y a une heure de pointe en bus. Mais en tout cas, donc moi, je suis originaire de Puebla. Et à un certain moment, j'ai commencé quand j'avais 8 ans. Et puis, j'ai fait des études. Là, c'est l'université qui organisait les cours de musique. Et après 5 ans, comme j'avais plus ou moins 13 ans, j'avais déjà fait tout le tour de ces petits orchestres que je jouais depuis mon enfance.
À Puebla.
À Puebla. J'ai beaucoup appris là, c'était une bombe basse. J'ai appris donc tous les tubes de la musique classique, mais au niveau, on va dire, débutant. Et j'ai eu l'expérience de jouer beaucoup de concerts en soliste. Donc j'ai tout de suite montré et un certain talent et surtout envie de jouer la musique classique. Et puis, donc, à un certain moment, il fallait choisir soit la ville de Mexico, soit la ville de Jalapa. C'est la capitale de Veracruz, golfe du Mexique. C'est tout à fait différent. Une petite ville, je ne sais pas combien il avait à ce moment-là, mais je ne pense pas qu'il y avait peut-être 1 million. C'était tout petit. Comparé à la ville de Mexico, que c'était
200
000, déjà... C'était
déjà Jalapa, on va dire 200 000 peut-être.
Oui.
Ouais.
Et...
Ou 500 000, je ne sais pas.
Peut-être, oui.
Ouais.
C'était une petite ville. En tout cas, tu pourrais marcher à 2-3 heures de soir. Et c'était vraiment l'esprit de marcher dans un parc, un jardin, un énorme jardin, la ville de Jalapa. Et donc, ça m'a beaucoup plu depuis que je suis arrivé à Jalapa. Et voilà, donc j'avais 13 ans, j'ai passé un séjour de peut-être plus, moins 10 ans. Et comme moi, j'avais 22, 23 ans, donc j'avais déjà un poste dans une orchestre, d'abord classique et puis pop. Et mes tas appartenaient les deux à l'université de Jalapa, qui organise au Mexique, c'est souvent l'université qui organise tous les événements culturels. Et du coup, à ce moment-là, donc, j'avais très envie. J'avais déjà fait un voyage en Belgique en 1993 pour le festival Europalia. Et ça m'a resté toujours dans la tête de pourquoi pas un jour essayer de venir en Europe. Et mon premier essai, c'était dans les années 96, je pense. Je venais juste de commencer ma vie comme professionnelle. Et la première chose que j'ai fait quand j'ai reçu mes premiers salaires, c'était aller acheter un billet d'avion pour aller rendre visite à un copain qui habitait à Bruxelles, qui à ce moment-là, il faisait ses études. J'ai fait mon premier essai pour rentrer au conservatoire. J'avais 17 ans, plus ou moins. Et j'étais accepté, mais malheureusement, j'étais mineur, donc il fallait tous les papiers de mes parents. Et mes parents s'étaient divorcés. Et moi, je suis rentré côté de ma maman. Ma maman était malade. Et donc, j'ai dû rentrer. Ça n'a pas marché à ce moment-là. Ma maman est décédée à ce moment-là. Et tout traînait, tous mes projets. À un certain moment, j'ai abandonné. Et puis, je suis parti au Canada par hasard. Un copain m'a invité, il m'a vu en dépression. Il m'a dit, écoute, viens à Jalapa, viens au Canada, à Toronto. Ici, il y a la musique de mariachi. Et il nous manque un violon. Et je me suis dit, pourquoi pas? Et à un certain moment, je voulais faire une pause pour la musique classique. Et ça a très bien marché parce que j'ai eu un impact très fort par rapport à la musique mariachi. Et j'ai connu la musique mariachi au Canada. Et d'abord au festival de mariachi à Guadalajara, mais tout de suite je suis allé avec le même mariachi au Canada et c'était formidable, c'était une belle expérience. Et voilà, donc je suis rentré, j'ai passé un petit séjour à la ville de Mexico pour bien apprendre les instruments de la musique mexicaine, mariachi, donc la vihuela, le guitarrón, un peu le style, comment il fallait jouer la musique mexicaine.
D'ailleurs, tu les as amenés là et puis
oui. On
t'écoutera un petit peu tout à l'heure.
Exactement.
Et puis aussi, tu as fait une sélection musicale ici, donc peut-être qu'on peut, voilà, je t'ai proposé de mettre quelques repères pour nos auditeurs. Bon, qui ont peut-être une oreille généraliste. Hein. Nous, ici, on comprend qu'on est avec un spécialiste. Et donc, voilà, histoire de commencer un peu à se mettre dans le bain. Après quelques morceaux un peu généralistes que tu nous as sélectionnés et qui t'ont inspiré, hein, je pense, mais on écoutera des choses un petit peu plus personnelles. Si c'est bon pour toi, on est d'accord
très
sur la formule ?
C'est parfait.
Super. Alors, tu avais proposé pour commencer le Huapango des Moncayo.
Oui, c'est bien.
C'est bien pour commencer. Donc, c'est une pièce classique.
Exactement. C'est un compositeur qui s'appelle Juan Pablo Moncayo. Et c'est un musicien classique qui a fait ses compositions pour un grand orchestre symphonique. Avec des motifs mexicains, typiques mexicains.
On commence en symphonie alors.
C'est comme une sorte de symphonie. C'est un poème symphonique. Si vous
voulez. Allez. Voilà, voilà. Alors, un petit extrait ici du Huapango de Moncayo. C'est une sélection de César qui est avec nous ce soir et qui vient nous parler de musique mexicaine. Alors ici, on a donc une chanson, comme tu disais, c'est un orchestre, c'est symphonique, énormément d'instruments, mais ça reprend une... c'est une chanson écrite par un compositeur de musique classique mexicain. Mm-hmm. Dans quelle époque, plus ou moins, il y a quelque chose qui est lié au Mexique, là, apparemment. C'est un truc au niveau de l'identité.
Oui. C'était, à mon avis, les années 1800, quelque chose. Attends, je ne me souviens pas très bien la naissance, mais ça doit être... Il est né en 1940, peut-être. Il est décédé fin des années 1800. Et donc, c'était l'époque vraiment de tous les compositeurs classiques, et Tchaïkovski, Brahms et tous ces grands compositeurs. Mais bon, il est des côtés du Mexique. Avec les motifs mexicains, donc les mots huapango par exemple, et c'est le rythme qu'on entend, les ta 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 ta, en six tons, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, et donc c'est très utilisé par la musique et folklorique mexicaine, et donc il a pris ces motifs, c'est pour ça qu'il s'appelle huapango, il a fait toute une sorte de mini-symphonie, on va dire, et il a joué juste avec ses motifs, on variait avec tous les instruments de l'orchestre symphonique et tous les moyens des musiciens classiques. Et donc, il a traduit quelque sorte ses motifs, qu'il est très, très mexicain. Et maintenant, si on veut, par exemple, si on met ces morceaux au Mexique, n'importe quel Mexicain, ils se sont identifiés comme si c'était un deuxième hymne national, par exemple. Il n'y a pas de lyrics, il n'y a pas de paroles, mais dès qu'on entend les quelques motifs, on reconnaît tout de suite que c'est, voilà, on sait que c'est du Mexique.
Et n'importe qui, alors toutes les classes sociales
Toutes les classes sociales, parce qu'en fait, tellement il y a les motifs mexicains qu'ils sont utilisés par beaucoup de marques pour faire des publicités. Par exemple, Corona, il a beaucoup utilisé un certain moment, tous les jours on entendait Mexico, et donc sans le Mexique, ton corps, et il mettait ces musiques là et donc du coup c'est quelque sorte qui, donc quelque part qui reste dans la tête de beaucoup de Mexicains. C'est devenu très populaire, ces musiques, et voilà. Donc ça, c'est une des premières influences que j'ai eu depuis que j'étais petit. Et jusqu'à présent, ça me donne très envie de jouer ces morceaux. Et on a produit la dernière fête mexicaine que j'ai organisée. Ça, c'est les morceaux qu'on a essayé de faire une réplique ici avec les musiciens. Moitié belge et moitié mexicain. Et donc, ça donnait très bien. Et donc, ça, c'est un des morceaux que moi, je voulais montrer ce soir. Il y a un autre morceau aussi qui j'ai eu beaucoup d'influence. Donc, il s'appelle... Ojalá que yo haga café en el campo. C'est par un groupe, ça c'était des années 80. Le rock, c'est un rock, on va dire quelque part classique, si on veut. À ce moment-là, c'était la seule chose qu'il avait comme différence, c'était que son approche était la même chose. C'est basé à partir des motifs mexicains.
Un rock mexicain, quoi.
Voilà. Mexicain, par exemple, ils utilisaient des boleros, que c'est une chanson romantique, ou comme un huapango. Et donc, justement, le morceau que j'ai choisi, c'est aussi, encore une fois, huapango, mais un peu plus vite, plus vivant, et avec mon mélangeant avec les musiques d'une bande rock.
Et voilà. Pour revenir un peu à ton parcours, alors tu disais que donc, tu nous as parlé du début avec la musique classique, puis bon, tu vas au Canada, tu découvres le mariachi, tu travailles là-dedans, et alors le rock, ça s'est fait en parallèle à tout ça.
Le rock, je pense que
Café Tacuba,
ça n'a jamais été attiré, on va dire, par mes propres moyens, mais on va dire que c'est on le vit tous les jours. Donc de toute façon, le rock est, on va dire, classique, ça va, mais je suis pas très très fort attiré au rock essentiellement, mais en tant que musicien et surtout compositeur, je garde l'esprit et ouvert pour toutes sortes de styles. Il y a bien sûr quelques styles qui m'attirent plus, que je les sens plus, mais je suis ouvert. Et dans ces cas ici, par exemple, ces bandes, ça m'attirait beaucoup, son style particulier de chanter, de chanteur, c'était très rigolo. Il voulait imiter les falsettos. Mmh. Les sons des...
Les fossés, les voix de fossés.
Les voix de fossés, les voix fausses, je ne sais pas comment on appelle en français. Mmh. Je pense qu'ils s'appellent des têtes. Et donc, il essayait de faire comme les vrais paysans qui habitent dans la campagne, qui chantent comme ça, avec les falsettos. Et du coup, il avait une couleur particulière. C'est ça qui m'intéressait du chanteur. C'était le chanteur qui m'intéressait plus que la bande. En style, à ce moment-là, je me suis rendu compte, j'étais très jeune, que c'était une bande de rock. Maintenant, on peut les classer comme ça, mais de toute façon, avec beaucoup d'influence mexicaine. Et maintenant, je n'ai jamais fait de rock moi-même. Mais par exemple, maintenant, j'ai une école de musique et beaucoup d'élèves. Et je vois qu'ici, en Belgique, le rock, ça fait partie aussi des...
On est déformés.
Voilà, non, de la vie quotidienne. Et donc, du coup, les enfants, ils me demandent. Uh-huh. Par exemple, j'ai déjà coaché un petit ensemble, pas de rock nécessairement, mais les instruments de guitare électrique, et les drums, par exemple. Mon fils, il était attiré par les drums, par la batterie. Et du coup, ça me fait rentrer dans ce monde. Et donc, okay. Rechercher, savoir comment il faut jouer. Donc maintenant, je me saute un peu, mais donc je suis devenu un musicien polyinstrumentiste. Donc, une fois que j'ai commencé à découvrir un instrument différent que mon instrument principal, c'était le violon. Une fois que j'ai commencé avec le mariachi, j'ai découvert ce talent aussi de pouvoir jouer différents instruments. Et du coup, maintenant, je les prends avec une approche, bien sûr, maintenant, après autant d'années, avec une approche pédagogique moi-même. Je suis mon propre prof. Mm-hmm. Et aussi avec la logique qu'on a en tant que musicien, de savoir la logique de comment déplacer les doigts et trouver les cordes. Et une fois qu'on trouve, paf. Et maintenant, surtout maintenant, à cette époque, on a des tutoriels à l'infini. Mmh. C'est beaucoup plus facile par rapport, je me souviens, quand j'ai commencé les premiers morceaux de mariachi, qu'on devait faire les trajets au Mexique, 2 heures de bus, rester, chercher, essayer de passer la nuit avec quelqu'un pour profiter le séjour et puis rentrer. Et puis, une fois que je suis parti au Mexique, j'essayais d'acheter un maximum de VHS et les vidéos. Pour pouvoir voir qu'est-ce qui s'est passé au Mexique. Et je suis rentré à une sac de VHS. Et maintenant, tu trouves tout ça.
Ça, c'est quand tu étais au Canada ou...
Non, là, je suis après avoir été au Canada. Tu étais déjà en Belgique, alors. Voilà, une fois que je suis allé, venu en Belgique.
Ça remonte quand même, l'histoire des VHS.
Oui, ça fait il y a 20 ans.
Ça fait longtemps que tu es en Belgique.
Je pense que c'était 20 ans.
Ouais. Allez. Bah, écoute, on va lancer la musique. Oui. Alors, ojalá que llueva café, pourvu qu'il pleuve du café.
Oui, exactement.
Allez, c'est parti.
Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una jarita de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café. Pinta mi cosecha pitiza alegre, siembra una llanura de patata y fresas, ojalá que llueva café. En el campo.
Voilà, avec Café Tacuba. Alors, on est ce soir en présence de César
Fernandez,
gracias. Et César Fernandez, donc, qui est un musicien hein, d'un haut niveau quand même, et branché musique classique, musique folk du Mexique. Là on entre bien dedans, là, avec cette musique-là. Là, tu me touches, là. Hein, parce que bon, ça rappelle un peu. Peut-être, je ne sais pas, ben le son jarocho dans oui, certains exactement. Aspects, la petite, le oui, petit instrument, je ne sais pas c'était quoi ce petit instrument.
C'est la jarana.
C'est la jarana, ok, la jarana. Okay. Une petite
la guitare.
Une sorte de guitare un peu spéciale.
Oui, c'est Jean Ukulele, mais son propre son.
Voilà, et puis tu parlais aussi de la voix de Fossé, ça c'est la deuxième voix qui est venue, ce n'est pas la première. Hein. La première, ce n'est pas trop ton truc, mais, ça. La première, c'est... peut-être une voix un peu plus pop comme
plus
ça.
Pop,
hein.
Pop,
mais c'est
pop.
Le même qui fait les deux
ou... Et en fait, c'est une question-réponse.
Il y a deux personnes, quoi.
Exactement. À un certain moment, quelqu'un demande et l'autre...
Donc il y en a un qui fait l'intro un peu style pop avec une voix oui. un peu basse.
Mais c'est lui-même, hein.
C'est
lui-même
même,
qui répond.
D'accord. Et puis c'est lui-même qui répond après. Il se répond.
Il y a quelqu'un qui chante okay, quelqu'un, de musique traditionnelle.
Voilà.
Et puis lui, il essaye de faire une réplique à son style.
Ok. Bah, intéressant, oui. Je crois qu'ils sont assez connus, hein, Café Tacuba. Oui. Ils sont même passés ici à Bruxelles il y a un an, un truc comme ça.
Exactement.
Je sais pas si. Oui. Bah, c'est les mêmes que de
c'est
l'époque.
C'est les mêmes groupes. Et... Oui, mais ça date aussi.
Ça date aussi. Hein. Ouais. Parfois, bon. Ça vieillit pas toujours bien. Bon, je ne sais pas, je n'y suis pas allé, mais bon.
Mal non plus.
C'est que c'est un groupe emblématique. Alors, tu nous as encore sélectionné un morceau.
C'est un morceau. Donc là, c'est
l'influence
de la musique de mariachi. Donc, mariachi sol de Mexico, de México. C'est un mariachi qui, pour moi, c'est un mariachi qui est à la recherche de quelque chose de nouveau. Il prend. Bien sûr, il garde la tradition mariachi, il peut jouer la musique mariachi, il vient de la ville de Guadalajara, mais ils sont grandis à Los Angeles. Et du coup, ils ont qu'ils sont approchés avec toutes les études qu'ils ont fait aux États-Unis, avec la formation des musiciens aussi, avec un niveau bien, bien fort. Et donc, ils ont pris des éléments qu'ils ont vécu, le rock, de reggae, tout ce qu'ils ont envie de faire. C'est eux qui ont fait les... Je voulais utiliser tout à l'heure aussi les mêmes mots pour Café Tacuba. On utilise ça, comment on appelle ça, les mots pour... fusion, non? Fusion.
Une fusion.
Fusion. Ici, c'est le même cas pour Fall Soul de Mexico, c'est le même cas. Ils ont fusionné toutes sortes de musiques, toutes sortes, classiques, reggae, rock, ils ont tout enregistré. Avec son instrumentarium de musicien mariachi, donc c'est la petite guitare, la basse, l'harpe, et 5-6 violons, 2-3 trompettes, ça c'est tout, et tout le monde chante. Et avec ça, ils ont essayé de faire une réplique de tous les styles qu'ils avaient envie de faire à ce moment-là. Et donc c'est pour ça que ça m'a attiré ce groupe-là, parce que ça rejoint la même mentalité de « Ok, on a la tradition quelque part, on est l'influence des Mexicains, mais on est à la recherche de quelque chose de nouveau. » Donc il y a toujours un groupe qui est à la vanguarde de découvrir des choses, d'ouvrir le chemin, et puis il y a les autres qui suivent, ou bien ils restent dans son coin. Et moi, j'aime bien cet esprit de vouloir découvrir de nouvelles choses. Et donc, c'est pour ça que j'ai suggéré ce groupe de mariachi. Mais ici, dans tous les cas, le son de la Negra, c'est une chanson qui est faite pour danser. C'est très traditionnel, mais en tout cas, les sons qu'ils ont, c'est plus moderne par rapport à mariachi qu'on voit au Mexique, dans la ville, qui garde la vraie tradition. Mm-hmm. Donc, voilà.
Allez, c'est parti.
Thank you.
Alors, on est à l'écoute du Mariachi Sol de Mexico. Vous êtes sur Radio Panique, c'est l'émission Djiboutique. On est avec César Fernandez. Et donc, on est au Mexique avec un groupe qui pourrait sonner un peu comme du typique, mais César nous dit que ça n'en est pas. Enfin, pas totalement, du moins. Alors, il y avait différentes petites parties ici, différentes, comme un espèce de medley, on pourrait dire ça.
Oui, exactement. C'est, ouais. Ils ont joué la musique traditionnelle à sa manière, et en ajoutant quelques ornements de plus. Ce n'est pas les morceaux les plus innovants qu'ils ont. Ils ont d'autres morceaux beaucoup plus haussés, mais je voulais juste nommer ces groupes-là. Si on fait une recherche, on va découvrir
des choses intéressantes.
Beaucoup de choses. À son choix, parce qu'il y a des. Par exemple, si on demande à un Mexicain musicien mariachi d'écouter les groupes Sol de Mexico, il va refuser.
D'accord. Pourtant, le Mexicain ne dit jamais non, en principe. Alors là, c'est très fort.
Ça, c'est vrai.
Fort.
Dans le cas de ces musiciens, ils sont vraiment traditionnels, donc ils aiment bien garder sa tradition et qu'ils ne souffrent pas de modifications. Et voilà, ici on a entendu plein de modifications, mais c'est un protocole. Hein,
c'est intéressant, il faudra que tu reviennes, parce que bon, le cours de musique mexicaine, là, ouf, on a essayé ici un petit peu, mais en général, on a donné des grandes lignes dans Djibouti, bon, c'était déjà il y a longtemps, hein, mais... On a joué un petit peu à faire les connaisseurs des musiques mexicaines. Bon, tu sais, je savais pas trop quoi faire, donc voilà. C'était un bon passe-temps. En tout cas, merci d'être là. Et c'est vraiment chouette. Alors, alors, Son de la Negra, du coup. Alors, parce que je te demandais donc, par rapport à l'idée d'un medley, est-ce que Son de la Negra, ça c'est une des parties ou bien
Son de la Negra, on appelle ça son à une façon de. C'est une chanson, c'est un style de chanson pour danser. S'il y a quelqu'un qui danse, on appelle ça un son.
Ouais.
Et de la Negra, c'est parce que. À l'époque de la Révolution, il y avait un train qui s'appelait La Negra, qui traversait à l'époque de la Révolution. Et donc, on essaye d'imiter les musiciens qui ont fait La Negra. C'était pour faire une réplique de comme le train démarre.
Ça, c'est au début de la chanson.
Le début de la chanson, ça démarre très lent et ça garde un tempo, mais pas forcément vite, mais continue.
Oui, j'ai remarqué, il y avait un truc comme ça.
Et voilà, et donc ils chantent tous les morceaux, les paroles parlent à propos de la negra, quand on maîtresse à mi negra, etc. Donc ça parle du train. Le train comment on appelle ça, locomotora.
La locomotive.
Oui, locomotive. Et à l'époque, donc ça c'est une chanson vraiment très originelle de la musique mariachi.
Original.
Okay. Et je veux dire, peut-être c'est un des premiers.
Du début, tu veux dire.
Voilà, du début.
Voilà, ok. Une des premières.
Une des premières chansons qu'ils ont fait. Et à partir de là, ils sont. À l'époque, les premiers mariachis, ils s'étaient inspirés par tout ce qui était autour de la nature, dans les champs, par exemple, les oiseaux, les champs, la terre, et les maïs, tout ce qui était au champ. Et donc, les vrais musiciens mariachis, ils vivaient en semaine dans l'agriculture. Et le week-end, ils allaient en ville, à la ville de Mexico, pour gagner un peu plus de sous. Et donc, ils faisaient des petits groupes. À ce moment-là, par exemple, à l'époque de la Révolution, il n'avait pas de sa vie comme un homme connaît le mariachi avec le chapeau. Non, c'était juste la tenue des gens qui travaillaient au champ. Avec la tenue tout blonde, avec peut-être quelque chose rouge qui attache la ceinture. C'est tout. Et donc, c'était des indigènes. Et donc, ils ont fait plein de chansons. Ils faisaient des sérénades pour les gens un peu plus avec plus de moyens. Mais l'histoire pour les mariachi a commencé quand la télévision a commencé. En fait, la télévision et les films aussi ont commencé. L'époque d'or qu'on appelle au Mexique, c'était les années 30-40.
L'époque
d'or. C'était une belle époque au Mexique pour faire plein de films.
1930, 1940.
30-40, tout ça, c'était fort développer les films à cause du sujet de la révolution, etc.
Mais donc le mariachi, c'est né déjà avant la Révolution.
Oui, oui, oui. Les musiciens, on va dire, les vrais musiciens mariachi sont nés du chant, avant, bien avant.
Fin du 19e siècle.
Exactement. C'est fin du 19e. Mais ils se sont donnés, qu'on va dire, connus, ils se sont fait connaître à partir de la, du film, des premiers films qui sont, ils sont produits, par exemple, dans les années, on va dire, 50. Parce qu'il fallait présenter les musiciens à la télé. Donc, ce n'était pas présentable de les mettre comme ça avec ses habits d'indigène. Et donc, il y a quelqu'un qui a eu l'idée, OK, on va trouver des habits spéciaux pour les musiciens pour qu'ils se voient un peu plus élégants dans okay. la télé. Et donc, là, ils ont commencé à dessiner quelque chose qui ressemble à, par exemple, un caporal. Il y avait une statue plus élevée par rapport aux comment on appelle ça, et les paysans. Donc, le caporal, il c'était un habit plus de charro, non? Mm-hmm. Charro, c'est un pantalon un peu plus de cowboy mexicain avec son chapeau, etc. La chemise un peu plus
cowboy,
voilà, mm-hmm. du nord. Ils ont dit, ah oui, quelque chose comme ça. Et voilà, ils ont commencé à dessiner jusqu'ils ont trouvé, ah oui, voilà, donc ça, ça donne bien. Et donc, on présente comme ça. Et du coup, ça, ça donnait un choc de voir juste, pas seulement la musique bien coordonnée, tout ça. Et le style, mais aussi les habits. Et donc, à partir de là, ça a commencé à développer toute une série de fashion pour qui fait le meilleur de ça et ça. Et maintenant, on met des boutons, et maintenant, on fait ça. Et jusqu'à présent, ça continue à développer. Hein.
Mais tu parles de caporal, donc caporal dans l'armée révolutionnaire, quoi. En gros, oui. C'est ça l'influence.
Caporal, on appelait caporal les gens qui étaient en charge. Oui, ça vient le nom, ça vient de l'armée, mais nous, on utilisait ça pour les gens qui géraient. C'est une chose, c'est comme la personne qui était en charge d'une hacienda.
Ah ouais, ok, le capot, quoi. Ouais, d'accord.
Qui était en charge de la cheval, il surveillait que tout se passe bien des côtés du champ.
Le gérant de la ferme.
Exactement, le gérant de la ferme, on appelle ça caporal. Donc, c'est lui qui se déplace partout à cheval.
D'accord.
Et donc, et du coup, il est habillé un peu plus, il porte un habit plus, on va dire, plus élégant, quelque part, ou plus des cow-boys.
Donc, pas spécialement en lien avec la Révolution, là.
Non, non.
Non.
Okay. Non, c'était pas un homme qu'on utilisait ça pour juste dire qu'il a une statue un peu plus élevée par rapport aux autres, qui étaient en charge, c'était les patrons. Et du coup, c'était l'inspiration. Et à partir de là, c'est à l'infini, hein, tous les costumes qu'on a envie de faire. Mais la même chose, il y a des protocoles au Mexique. Maintenant, si on va au Mexique, il y a tout un protocole. Il faut garder ses formes de pantalons, il faut garder ta, ta, ta. Et donc, c'est toute une culture. C'est une culture, la charrería, on appelle ça, la charrería.
Ouais.
Et donc, c'est aussi très, très développé. Et voilà, donc à ce moment-là, ça se mixe les deux, les habits, la musique traditionnelle, et paf, à partir de là, ça commence les arrangements. Et la Negra, c'était un des premiers arrangements qui sont faits pour la télé, pour les films. Et voilà, et du coup, aussi pour l'anecdote, comme on a écouté tout à l'heure les huapango de Moncayo, il y a un autre compositeur comme Moncayo qui a fait aussi... à partir du motif du son de la Negra, il a fait aussi son morceau symphonique et bien développé. C'est la excellent. Même chose, mais un son de Jalisco. Le huapango, c'est plus du côté Veracruz, du Golfe du Mexique. Et le son de mariachi, ça vient de la région de Jalisco, c'est le côté pacifique. Et donc, ce sont deux styles opposés, mais... aussi très caractéristique du Mexique.
Comme dans beaucoup de pays d'Amérique latine, on reprend, on dialogue, on le fait à notre version. On s'exprime à travers la musique, donc ça vient un petit peu naturellement, entre guillemets. Enfin, je veux dire, c'est normal, entre guillemets. Quoi,
oui.
Super. Alors, tu as pris tes instruments aujourd'hui, tu as prévu de jouer deux chansons pour nous ici dans le studio. Tu as ton violon, puisque tu nous as déjà dit que c'était ton instrument principal.
Exactement.
Et tu vas faire une chanson plus au violon, une autre.
Oui.
C'est ça.
Hein. À la vihuela.
Ok, donc, tu me donnes une petite info par rapport à.
Oui. Donc, le premier morceau que je vais jouer s'appelle Rondinella. Rondinella est. C'est une composition d'un compositeur mexicain. Et... parce que j'ai oublié son nom maintenant. Ça fait tellement d'années que je ne joue pas. Mais bon, en tout cas, c'est passé de la musique gitan, en paix, comme ça. Mais ça commence au début avec un calme et puis ça accélère le tempo. Donc c'est très commun aussi dans les fêtes au Mexique de jouer ces morceaux.
Ok. César Fernandez sur Radio Panique, 105.4 FM, l'émission Djiboutique. Voilà, un petit parcours aujourd'hui, quelques balises de musique mexicaine. Tu disais que cette chanson, c'était typique de certaines fêtes au Mexique.
Mais non, tellement vivante, et ça fait... C'est un polka à la fin.
Ouais.
Et donc, du coup, c'est très festif. Et les gens, ils adorent ça au Mexique. Et on va dire dans les fêtes de mariage, surtout le dîner.
Mm-hmm.
Ils demandent fréquemment Rondinella, jouez Rondinella. Ça, ça fait comme l'ambiance. Et c'est aussi, donc, ça fait partie des chansons classiques dans les fêtes, on va dire. C'est tout au début de la soirée. Mais pour moi, je
avec
suis
un mouvement spécial de danse
non, y a, non. Non, c'était juste. C'est,
non, je veux dire, les gens dansent librement là-dessus ou ça, y a,
non.
Non.
Non, non, je pense qu'ils aiment bien.
Ils aiment bien écouter.
Ils aiment bien écouter. Ils aiment bien écouter. Ça donne très classique au début. Et c'est aussi c'est composé pour un violoniste, pour les violons. Et donc, ça colle bien, ça transmet bien les côtés classiques. Et ces couleurs de violon, les gens aiment bien. Pendant le dîner au Mexique, on joue tout le temps. Hein, maintenant que chaque fois que je vais au Mexique, je vois des musiciens tout le temps, à tous les moments de la journée. Et donc, dans la soirée, c'est très normal de voir qu'au début de la soirée, ils demandent les violons qui sont autour de la table hein, pendant qu'on mange. Et donc, ils aiment bien d'écouter ce genre de morceaux. Mmh. Et donc, ça, c'est Rondinelas.
Joli, en tout cas, bravo pour l'exécution.
Et ici, donc, le deuxième morceau que moi j'aimerais bien jouer pour vous, c'est... donc je vais jouer maintenant la vihuela, je vais changer d'instrument. Et la vihuela, c'est un instrument construit par les mariachis, pour les mariachis. C'est-à-dire qu'au début, comme je parle de l'époque qu'ils rentraient du champ pour gagner quelques sous en week-end, donc ils prenaient l'harpe. Et donc l'harpe, le violon, soit l'harpe de guitare. Mais du coup, l'harpe, ça devenait trop grand pour prendre un taxi ou pour se déplacer, pour faire les sérénades. Et donc, du coup, ils ont eu l'astuce de couper les cordes de l'harpe en deux sections, les aigus et les graves. Et donc, ils ont fait deux guitares, une grosse guitare qui s'appelle guitarron, c'est la basse. Et ils ont mis tous les cordes graves de l'harpe. Et la vihuela, il a pris la partie aiguë de l'harpe. Et du coup, c'était beaucoup plus facile pour prendre le taxi. Ils prenaient chacun son côté comme une guitare, derrière les dos, et paf, ils sont partis jouer.
Wow,
donc c'est pour une question de pratique. Mais bon, ils sont construits, ils sont faits juste et vraiment, ils sont... c'est comme une guitare, mais avec c'est un ventre un peu plus, un gros ventre. Et comme ça, ça donne un peu plus de son pour, quand on joue en plein air. Donc on a besoin de projeter du son et donc ça c'est petite les basses.
Ouais, d'accord.
Et donc ici maintenant je vais jouer la vihuela. Et la vihuela d'ailleurs c'est un nom d'une guitare espagnole. Donc peut-être que si à ce moment-là l'espagnol était déjà là au Mexique et donc l'influence espagnole, juste le nom.
Ok. Bon.
Et donc la chanson que je vais chanter c'est La Bikina. C'est composé par Rubén Fuentes. C'est le même monsieur qui a composé le son de La Negra. Et bon, c'est un musicien classique qui a fait connaître les mariachis à la télévision et au film. Et donc, lui, il a composé la bikina. Et on se demande pourquoi il parle d'une fille qui regarde, qui s'en va, etc. Donc, on ne sait pas très bien si lui s'est inspiré exactement. Mais en tout cas, ça parle d'une fille qui passe et qui montre sa beauté. Et puis, il part, etc. Donc, la bikina.
Ouais.
Il a pris foi.
Waouh, excellent. Alors, La Bikina, donc, on était avec César Fernandez qui nous l'interprétait ici avec sa vihuela. Je ne sais pas si je prononce bien, j'essaie.
C'est juste.
Bon, ok. En tout cas, un grand merci, César. C'était vraiment super de t'accueillir et on le refera avec grand plaisir. Ici, c'était juste un petit aperçu de ce dont tu es capable. Mais bon, dire quand même que tu organises aussi une grosse fête mexicaine au mois de septembre. Et ça, ce sera peut-être justement l'occasion de te réinviter pour en parler sur les ondes du 105.4. Voilà.
Bien sûr, avec plaisir.
Un grand merci en tout cas. Ce soir aussi, je vous rappelle que nos amis du Sounds Resist ont une programmation qui est en fait la Jam Latino, qui a lieu, je crois, tous les mois. Mais ce soir, elle est orientée sur les musiques andines, puisque c'est un peu le mois du carnaval. Et dans des endroits comme la Bolivie, Oruro, on fête le carnaval. À Veracruz aussi, hein, mais à Oruro, Bolivie, en tout cas, on la fête, on le fête. Bien, donc allez faire un petit tour du côté du Sounds Resist, c'est rue de la Tulipe, hein, tout près de la place Fernand Koch. Voilà, un grand merci encore César, on va se quitter avec un dernier morceau que tu nous as amené, Gotas de Lluvia.
Gotas de Lluvia.
Un mot là-dessus ?
C'est juste dire que c'était vraiment... On va sauter une période et peut-être un autre jour on va parler plus, mais ça c'était une des dernières choses que j'ai fait en 2021 quand j'ai commencé à explorer la musique électro. Et donc du coup on était enfermés en Covid et voilà, donc inspiré par la Juvia, la pluie de la Belgique.
Excellent, grand merci hein, César.
Avec plaisir.
À la prochaine, ciao.
Thank you.